Tous les jours à 12h15 et 19h15,
Je vous dis pas,
votre magazine d'information locale.
Lundi, je vous dis pas, bonjour. Dans un court instant, on découvre le chanteur Ray Cabrera avec son producteur. Mais pour l'instant, on accueille Slobodan. Il sera en concert avec son groupe Opium du Peuple le vendredi 8 mai. Bonjour Slobodan.
Bonjour.
Tu es à l'origine du groupe et le chanteur, c'est bien ça?
Exactement, je suis le leader charismatique du groupe.
Comment est arrivée l'idée de reprendre des standards de la chanson française à la sauce rock, voire punk rock?
Alors en fait, ça vient de quelque chose qui m'est arrivé au milieu des années 2000. J'écoutais beaucoup de punk rock français ou même américain, anglais, tout ça. Et souvent sur les albums, il y avait de plein de groupes, il y avait une reprise.
Mmh.
Il faisait une reprise et du coup d'un grand classique. Alors c'était La Isla Bonita de Madonna ou un truc comme ça, tu vois. Je crois que même les Tubs, ils l'avaient fait en France, La Isla Bonita, si mes souvenirs sont bons. C'était peut-être pas les Tubs, mais enfin bon, bref. Et du coup, souvent le morceau, il marquait bien les gens, donc je me suis dit, tiens, mais ce serait rigolo de faire un groupe qui ferait que ça.
Ouais.
Comme c'est le morceau qui marque souvent les gens sur les albums, si on fait des albums remplis de ça, c'est forcément carton plein, quoi.
Exactement.
Donc voilà, c'est venu.
Et c'est carton plein.
Bah écoute, oui, on a commencé à bosser le projet en 2006. J'ai mis 2-3 ans à trouver les gens, en fait, parce que je le proposais à plein de gens, puis les gens me disaient, bon, oh, c'est chiant, c'est nul, c'est de la variété. C'est pas facile de trouver des gens qui jouent du punk rock ou du métal ou du rock'n'roll et de leur dire bon ben voilà, on va bosser sur un répertoire de variété,
ouais,
et de chansons françaises. Donc du coup ça met un peu de temps et quand j'ai trouvé les bonnes personnes, on s'est attaqué au projet en commençant par le Sud, en fait.
De Lino Ferrer, ouais.
Ouais, voilà, la première chanson qu'on a bossée. C'est la chanson que j'avais en tête quasi depuis, ça faisait 3-4 ans que j'avais ça en tête, et je me disais tiens, le Sud, je suis sûr que ça marche. Donc on a commencé par celle-là. Ça nous a fait rire, et puis disons qu'on s'est dit, oh, le principe de base, c'est que déjà, si ça nous amuse à nous, on continue un peu, on voit ce que ça donne. On a fait une dizaine de morceaux, le chanteur de Tagada Jones, à l'époque, est tombé sur le truc, enfin, on se connaissait un peu, disons, on lui a fait écouter le truc, et il nous a dit, bah voilà, plutôt que de faire ça, sans savoir trop ce que vous en faites, ben, vous n'avez qu'à en faire un album, et je vous produis le truc, donc du coup, on a fait ça, et le premier album est sorti en 2007.
Le premier album est sorti en 2007. Vous faites des reprises de Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Pierre Bachelet, Laurie, etc., etc. Quel titre reprenez-vous dans ce nouveau spectacle, La Revanche des Clones?
Alors, dans ce nouveau spectacle, La Revanche des Clones, on a du Renaud.
Mm-hmm.
On avait déjà bossé un Renaud qui était Marche à l'ombre, et puis on l'avait depuis le début du groupe. Donc là, on a bossé sur Les Béton. On a également le chanteur de Mexico.
Ouais.
On a Fasta du Démon, on a Pur Medley, on a L'Été Indien.
De Joe Dassin, ouais.
Ouais, on a Le Temps des Cerises, parce qu'en fait, les reprises ne s'arrêtent pas qu'à la variété, ça peut être des grands classiques de la chanson française. Donc ça nous est arrivé de bosser Brel. Bon, il n'y a pas de Brel dans le spectacle, mais là, en l'occurrence, on a bossé Le Temps des Cerises, qui est quand même une chanson relativement classique du répertoire français, quoi.
Et très très connue, oui.
Chanson très connue. Et du coup, le côté révolutionnaire de la chanson, on s'est un peu interrogé comment on allait le faire et tout. Et en fait, ben, on a fait une version Berrurier Noir du Temps des Cerises, avec juste une boîte à rythme et une guitare et un saxophone. Et du coup, Le Temps des Cerises est devenu une chanson des Berrues dans le nouveau spectacle. On a fait aussi dans ce nouveau spectacle un petit peu l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que d'habitude on prend un titre classique ou de variété et puis on en fait du rock. Et là on a pris un titre de quelqu'un qui faisait du rock et on en a fait une chanson de variété.
Mm-hmm.
C'est un petit peu un hommage, on a fait ça avec Cayenne, la chanson de, enfin, une chanson interprétée par Parabellum. Et voilà, parce qu'on était bien bien copains avec Schultz, le chanteur de Parabellum, et il a disparu cette année. Et donc en fait, on lui rend hommage dans le spectacle.
Et vous l'avez déjà fait avec Trust Antisocial, une version très calme, très posée, ouais.
Voilà, on avait fait avec Antisocial, parce que on peut pas conserver une chanson telle qu'elle est.
Mmh.
On avait fait un flow avec Antisocial.
Ouais.
On avait fait à l'occasion justement des 25 ans de Parabellum pour une compilation. On avait fait un morceau de Parabellum déjà, commencé en lettre, en version vraiment musique de la boom, quoi.
Ouais.
Synthé et tout. Il y avait juste de la voix et des synthétiseurs. Et du coup, on s'est attaqué à la Cayenne là quand il a disparu, on a fait le morceau au groupe et du coup on s'est dit bah tiens on va la faire dans le spectacle.
C'est un petit hommage au Parabellum et à Schultz.
Ouais voilà, alors bon bien sûr il ne faut pas tout dévoiler à l'intérieur du morceau, il se passe des choses, mais voilà, alors après qu'est-ce que tu as d'autre pour revenir à ta question du départ
à la revanche des clones, oui.
Ouais, le lion est mort ce soir. Oui, la revanche des clones, je veux peut-être savoir pourquoi ça s'appelle comme ça, en fait.
Eh ben, je t'en prie, j'allais venir, mais vas-y, je t'en prie.
Bah, vas-y, je te laisse poser la question quand même.
Ah, ben, pourquoi la revanche des clones?
Oh, très bonne question.
Merci.
En fait, la revanche des clones, c'est parce que, si tu veux, depuis le départ dans le groupe, comme on fait des reprises, on s'est dit que c'était pas suffisant, tu vois, d'arriver comme un groupe classique et de dire, ben voilà, la prochaine chanson, c'est ça. Donc, on a toujours mis en scène un petit peu ça, c'est-à-dire que, pour la petite histoire, on est censé être tous de la même famille, et on est censé ne pas faire d'apprise, on explique bien dans les différents spectacles, que les chansons, c'est les nôtres, en fait.
Mm-hmm.
C'est pas des reprises, c'est des chansons à nous qui ont été plutôt reprises par les autres, et donc on se les réapproprie pendant les spectacles. Donc le spectacle d'avant qui s'appelait La Révolte des Opiomètes, c'était un petit peu comme si les clodettes de Claude François se révoltaient pendant un concert parce qu'elles étaient un petit peu rabaissées par le chanteur.
Oui, ils étaient un peu blasés même d'ailleurs par le chanteur.
Voilà, c'était le thème du précédent spectacle. Hein. On avait chopé ça au moment où les clodettes avaient porté plainte contre les descendants de Claude François. Pour escroquerie et tout. On trouvait ça rigolo, mais on trouvait ça bien que ça arrive pendant un concert plutôt que ça arrive 20 ans après. Donc on s'était servi de cette histoire-là pour le spectacle. Et du coup, là, c'est un petit peu une suite de ça. C'est-à-dire que les Opiomètes ont réussi à être intégrés dans le groupe à la même place que tous les autres dans le dernier spectacle. Et là, c'est un petit peu la revanche du chanteur qui, au départ, paraît très sympa et tout. Et du coup, finalement, décide que pour avoir le contrôle, parce que c'est toujours l'enjeu, en fait, c'est de rester le leader du groupe.
Mm-hmm. Le chef, quoi, ouais.
Ouais, voilà, pour être le chef du truc, en fait, il décide de cloner tous les musiciens. Comme ça, tous les musiciens deviennent lui. Et du coup, il n'y a plus de problème. Il est forcément le chef du groupe parce que c'est lui qui fait tout le groupe.
Et par contre, les Opiomètes, ils vont se rebeller, non?
Ah ben, ça, on verra peut-être dans un autre spectacle. Mais pour l'instant... Tu vois, c'est un peu comme la guerre des étoiles.
Ouais, ça se poursuit, ouais.
Tous les épisodes, quoi.
Et peux-tu nous présenter tes acolytes scéniques, avant de parler des Opiomètes?
Ah, alors, en fait, dans le groupe, mais il n'y a que moi dans le groupe. Les autres, c'est pas très important, en fait. Voilà, il faut... on joue le truc à fond. Donc, en fait, il y a avec moi, il y a trois musiciens et un bassiste.
Uh-huh.
Et donc voilà, il y a un batteur, deux guitaristes et un bassiste. Le bassiste et le batteur sont avec moi depuis le début de l'aventure Opium. Le guitariste qui était avec nous au départ de l'aventure est devenu administrateur du groupe.
Uh-huh.
Parce qu'il ne peut plus prendre la route autant qu'avant, donc du coup c'est lui qui s'occupe de nous, des petits papiers et tout ça. Et puis, du coup, on trouvait qu'avec une guitare, c'était pas assez. Donc, on en a mis une deuxième. Donc, il y a deux guitaristes maintenant. Alors, il y a des gens... moi, j'habite plutôt vers Toulouse. Et il y en a trois qui sont au Pays Basque. Un guitariste et les deux autres danseuses sont à Lyon. Donc, c'est un groupe relativement dispersé. Mais voilà, on arrive quand même à fonctionner comme ça. Et c'est plutôt pas mal.
Et les Opiomètes, la touche féminine du groupe, comment c'est arrivé un petit peu? Parce qu'au début, vous étiez vraiment un groupe de rock simple.
Oui, alors les autres, si tu veux, dès le départ, je l'ai eu en tête, cette idée de justement de se servir un petit peu de des ficelles de la variété, de ce que tu peux voir au niveau télévisuel et tout ça dans les shows de variété, il y a souvent des danseuses, quoi.
Ouais.
Et du coup, je me disais, ben, on amène le son du rock, les guitares, la batterie et tout, un truc qui est très rock'n'roll. Mais au final, ce serait quand même bien de se servir aussi, de prendre dans les références de la variété et du spectacle, quoi. Donc, assez tôt, on s'est dit, tiens, il nous faudrait avoir des choristes et tout sur scène. Et c'est des gens que peut-être tu connais, peut-être un festival que tu connais, c'est le couvre-feu, en fait.
Ouais, à Corset, oui.
À Corset, en fait, nous a fait jouer en 2007 sur la première tournée du groupe.
Mm-hmm.
Et on a super bien accroché avec eux. Et je suis resté assez lié avec le patron du festival, Vincent. Et quand je lui ai parlé, 2-3 ans après, éventuellement intégrer des danseuses et des choristes et tout, il nous a dit, ben voilà, si vous voulez, je propose que le festival finance une création, donc la création de l'opium et des opiumettes. Donc vous bossez votre truc, vous faites une petite résidence, et le concert, le premier concert avec les filles, vous le faites pendant le festival, pendant le couvre-feu.
Ouais, c'est sympathique, c'est une belle histoire, ouais.
Ouais, carrément. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Alors, comme la scène est très très grande au couvre-feu et que c'était joué sur la grosse scène.
Ouais, ça se passe sous chapiteau, on le rappelle.
Ouais, voilà. Oui, c'est vrai, sous chapiteau même, on peut dire. Du coup, on avait 4 danseuses avec nous. On est resté surtout à 2 la plupart du temps sur scène parce que les scènes ne sont pas aussi grandes, malheureusement, que celles du grand chat du couvre-feu.
Mm-hmm.
Mais du coup, voilà, l'histoire est partie d'ici. Et comme c'était au départ. Ben, on savait pas trop où ça allait, on se disait ben, peut-être ce sera un spectacle unique, on le fera qu'une seule fois. La semaine après, on avait un autre festival et du coup, il n'y avait pas les opiumettes. Et quand on est descendu de scène à la fin du concert, on s'est dit, bon, ben, c'est inconcevable pour nous de le faire sans, quoi.
Donc c'est né comme ça, plutôt à la cool.
De l'avoir fait une fois, la fois d'après, on s'est dit, non, c'est pas possible, c'est trop évident, ça fait trop partie du truc, donc on les a rappelés. On a dit, bon, ben finalement, on va
vous tournez avec nous maintenant.
Ouais, exactement.
Et par contre, est-ce que vous êtes costumé sur scène sans dévoiler forcément tout le spectacle?
On est multi-costumé sur scène.
Vous êtes multi-costumé sur scène?
On est multi-costumé et on est parfois même décostumé.
Ouh là là.
En fait, si tu veux, c'est marrant dans les langues. T'as l'impression, en moins beau, forcément, d'être... Si tu passes sur le côté de la scène, ça donne un peu l'impression d'être au Moulin Rouge, quoi. Il y a entre deux morceaux, il y a 20 secondes, et du coup, tu as deux personnes qui arrivent et qui enlèvent leur costume, qui en mettent un autre, qui repartent avec des accessoires. La partie mise en scène et spectacle du concert prend de plus en plus de place. Donc, on est obligé de demander maintenant toujours à avoir une loge à côté de la scène, des choses pour accrocher nos costumes, des choses pour les laver après le spectacle, parce que des fois on enchaîne 3 ou 4 dates à la suite. C'est une bonne organisation de pouvoir trimballer tout ça, quoi. Donc voilà, après on n'a pas des décors non plus énormes et trucs comme ça. On sert avant tout on veut montrer une image d'un groupe de rock, hein. Mais du coup, les changements de costumes et les trucs un peu paillettes, ben voilà, c'est encore un truc qu'on a pris au monde du spectacle, quoi. Et du coup, il fallait que ce soit un mélange de tout ça, et ça pouvait pas être juste du rock'n'roll ou juste du spectacle. Il faut mixer les deux, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une comédie musicale rock'n'roll, punk rock, drôle?
Ouais, carrément, on peut dire. Tu peux même enlever le mot punk, en fait.
Ouais.
Ouais, parce que ben
une comédie musicale rock'n'roll.
Ouais,
on est drôle.
On est capable de jouer pour la fête de la musique à Valenciennes devant 5000 personnes, comme on est capable de jouer sur le Metal Corner du Hellfest, comme on va le faire cette année, voilà.
D'ailleurs, Slobodan, est-ce qu'un CD ou un DVD est prévu pour ce spectacle Revanche des clones?
Alors, pour l'instant, on a toujours sorti que des albums.
Mm-hmm.
Les albums, en fait, sont présentés comme étant la bande originale de chaque spectacle, quoi. Parce que nous, on est plutôt, on n'a pas de distribution. En fait, c'est un peu comme quelqu'un qui irait irait voir un film et qui aurait envie d'acheter la BO après, quoi. On le voit complètement comme ça. Donc en fait, les gens viennent voir le concert et on fait plutôt des bonnes ventes, oui, sur le net et à la fin des concerts. Et donc voilà, c'est un peu ça. C'est la bande originale du spectacle que tu viens de voir, quoi, à peu près sur chaque album.
Et on vous retrouve sur l'île Dieu pour une soirée au bar Le Bon Accueil. Ça sera le jeudi 7 mai prochain. Une soirée musicopium, animation et surprise et en concert au casino le vendredi 8 mai avec en première partie le groupe Il est les Freestone. Les places sont en vente au bar Le Bon Accueil à Carcharlin et au supermarché Casino le 25 avril et le 2 mai. On vous retrouve également au Metal Corner durant le festival Hellfest à Clisson. Ça sera le jeudi 18 juin à 22h40. Slobodan, quelque chose à rajouter avant de se dire au revoir?
Eh ben, venez nombreux, hein. N'ayez pas peur, ramenez vos enfants, c'est pour toute la famille, mais il faut mettre quand même des bouchons pour les enfants.
Ouais, vous n'avez jamais mangé personne?
Non, pas du tout, et le spectacle est avant tout drôle, et voilà, après, forcément, faut faire attention aux oreilles, parce que c'est, ça reste du rock, donc ça fait pas mal de bruit, mais voilà, c'est vraiment... On met vraiment pas en avant, c'est un spectacle pour tous ou quoi, et voilà, en plus la plupart des gens connaissent quand même une grande part des chansons du répertoire, donc voilà, c'est une occasion de les entendre autrement, quoi.
Merci Slobodan de toutes ces informations.
Merci à toi.
Et on se retrouve en grande forme sur l'île Dieu les 7 et 8 mai prochains. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé. De danser. C'est l'occasion rêvée de changer de partenaire. Superman, Spiderman. On peut s'envoler en gardant les pieds sur terre. Joséphine, Colombine, aujourd'hui. J'embrasse qui je veux. Devinez qui je suis. Derrière mon loup, j'embrasse qui je veux. Aujourd'hui, tout est permis. Aujourd'hui, tout est permis. Au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé. De danser au bal masqué.
Je vous dis pas.
On poursuit cette chronique de Je vous dis pas, direction Cuba avec Jean-Marc Vallée. Il nous propose Rey Cabrera en concert le samedi 25 avril sur l'île Dieu. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Vous êtes la personne qui nous permet de voir Rey Cabrera en concert sur l'île Dieu et en France, c'est bien ça?
C'est bien ça, oui. On s'occupe de ces concerts sur la France depuis 4 ans maintenant.
Pouvez-vous nous présenter ce chanteur Rey Cabrera?
Bien sûr, ben Rey, c'est un personnage de la musique cubaine. Il fait pas partie des plus connus, mais il a eu un peu un parcours similaire à bien d'autres qui ont eu plus de succès, notamment en participant au Buena Vista Social Club. Rey, lui, était quelqu'un qui est né à Santiago de Cuba et qui a été très proche de la Liades, Ochoa, pendant très longtemps, puisqu'ils ont démarré ensemble, ils ont construit leur carrière ensemble. Voilà, Rey est un chanteur et un joueur de tresse, qui est une guitare typiquement cubaine, qui est née au XVIIe siècle, avec des matériaux de fortune, et qui a eu un son très très particulier, qui se rapprochait presque du piano d'ailleurs, et voilà, qui a été l'instrument avec lequel a débuté également Compay Segundo, Donc, qui est l'instrument emblématique de la musique qu'on appelle le son, dont Rey est un digne héritier et serviteur.
Et dans son spectacle et dans son concert, il nous invite à découvrir son héritage plutôt par la musique ou par les textes?
Les deux. Dans la musique cubaine, tout marche ensemble. Mm-hmm. Ça a toujours été comme ça. Alors, bien sûr, quand on n'est pas, j'allais dire, quand on ne parle pas, on comprend pas l'espagnol, on se laisse plutôt bercer par la musique. Mais les textes sont souvent très poétiques, très imagés, avec beaucoup de... À Cuba, les phrases ont toujours un deuxième sens.
Un double sens, oui.
Un double sens. Bon, c'est lié un petit peu à la méfiance qu'ils ont de, de parler librement. Et donc, c'est un jeu un peu de décrypter à travers des fois des paroles qui paraissent un peu banales, le sens caché ou voilà la signification de certaines images. Mais bien entendu, la musique cubaine qui a connu depuis 30 ans un succès retentissant à travers le monde, notamment grâce à Ray Cooder et Wim Wenders, bien sûr, mais voilà, donc c'est très important. Ray, lui, joue du son, qui est vraiment cette musique typique. Il fait un peu de rumba, un peu de boléro. C'est vraiment quelqu'un qui est né dans les années 40, qui a commencé sa carrière à la fin des années 50, donc qui a connu à la fois la période un peu où les Américains étaient à Cuba et avec toute la musique qui se développait dans les casinos, etc., la révolution, et puis ensuite dans les années 60-70, il a alterné entre sa carrière de musicien et de temps en temps, il faisait un peu militaire aussi pour gagner sa vie. Voilà, donc c'est un vrai personnage entier, haut en couleur, et voilà, qu'on a vraiment plaisir à faire découvrir en France parce que, il vit en Europe depuis quelques années maintenant. Et il a été un petit peu sous-médiatisé, à mon avis, par rapport à d'autres musiciens cubains. Et c'est vraiment quelqu'un de formidable, d'authentique et un excellent musicien et chanteur.
Ses textes sont plutôt autobiographiques, c'est bien ça ?
Oui, bien sûr, autobiographiques. Ça parle aussi de sa région natale, donc je disais de Santiago de Cuba. Il y a toujours beaucoup de poésie, beaucoup de sensualité. C'est un peu d'ailleurs une marque de fabrique de Cuba en général, des paroles de chansons cubaines.
Il nous parle de bons repas, d'amourettes heureuses et malheureuses, de personnes de sa famille pittoresques, des anecdotes burlesques et touchantes, c'est bien ça ?
Oui, toujours, oui. La famille, c'est quelque chose de très très important. Lui, il était un peu le petit dernier d'une famille assez nombreuse. Son père était joué du 13, ses frères aînés aussi. C'est eux un peu qui l'ont traîné à Santiago de Cuba, parce qu'en fait, ils habitaient à l'extérieur de la ville, dans un petit village. Et ses frères lui ont fait connaître un peu ses premiers moments de musique, un peu plus sérieuse. Et ensuite, avec son ami d'enfance, donc Eliades Ochoa, ils ont vraiment démarré ensemble. Quand ils avaient 16-17 ans, ils fuguaient pour aller faire des concerts. Donc c'est bien sûr que tout ce qui est famille, racines et toute cette période de construction qu'est l'adolescence et le début de l'âge adulte, ça a beaucoup inspiré les textes de Ray, évidemment.
Vous nous avez parlé de sa famille, ils étaient 11 enfants tout de même.
Et oui, c'était une grande famille. C'était assez courant à l'époque. Et voilà, son père était paysan. Mais il avait aussi l'oreille musicale. Et tous les enfants ont goûté à la musique. Il se trouve qu'il n'y en a qu'un qui a fait carrière et qui est toujours aujourd'hui... sur scène, c'est Ray Cabrera.
Et pouvez-vous nous parler de ces musiciens qui l'accompagnent un petit peu et des instruments joués durant le spectacle sur l'île Dieu le samedi 25 avril au casino ?
Bien sûr, donc il est entouré de musiciens cubains qui sont, comme lui, installés en Europe. Il y en a beaucoup à Bruxelles et à Paris. Donc il a vraiment recruté de très bons musiciens. Alors il y a d'un côté des cuivres, notamment un trompettiste très très présent dans ses orchestrations. Il y a toute la partie rythmique avec congas, avec toutes les petites percussions avec les timbales, etc. Donc ça, c'est bien sûr très important. Il y a un bassiste, voilà, et Ray, lui, joue du 13, chante. Et il y a un chanteur merveilleux aussi, un chanteur principal, puisque Ray fait la deuxième voix, en fait, et qui n'est autre que le fils de Hugo Garzón. Hugo Garzón, qui est un des membres fondateurs du Buena Vista Social Club et qui est le chanteur principal du Grupo Compay Segundo. Voilà, donc
de belles pointures à découvrir au Casino de l'Île-Dieu le samedi 25 avril.
Absolument, et c'est vraiment un moment fantastique à partager avec tout le monde parce qu'ils ont une joie de vivre incroyable, une virtuosité et en même temps une simplicité, une gentillesse. Et voilà, c'est vraiment toujours un très très bon moment à partager et j'espère que la salle sera pleine à cette occasion.
Jean-Marc Vallée, peut-on dire que c'est un concert haut en couleur ou c'est trop réducteur ?
Non, oui, mais avec beaucoup d'émotion, quoi. Donc voilà, il ne faut pas voir que le côté, j'allais dire, un peu exotique, un peu
festif,
folklorique.
Oui.
Non, c'est vraiment un artiste qui est sur scène, qui se dévoile, qui donne vraiment beaucoup de lui-même et qui a envie d'amener les gens avec lui, de partager ses moments. Et voilà, donc c'est vraiment... ça va au-delà simplement de la musique cubaine et du côté un peu image qu'on peut avoir, quoi.
Merci Jean-Marc Vallée de toutes ces informations.
Eh bien, merci à vous. Et puis pour nous aider à diffuser cette magnifique musique de Ray Cabrera.
Qui sera en concert, on vous rappelle, sur l'Île-Dieu le samedi 25 avril au Casino. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À très bientôt.
Au revoir.
On se retrouve dès demain dans Je vous dis pas, on vous présentera une conférence, les naufrages et les pillages de nos côtes par Roland Mornay, c'est à découvrir sur l'Île-Dieu le 22 avril prochain. À demain, au revoir.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.